Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Allez, on va parler d'économie comme chaque semaine avec notre spécialiste de la question, Nicolas Perpich. Salut Nicolas.
Salut Christophe.
Alors on va parler de deux sujets qui, bon, c'est un peu des madeleines de Proust, hein. C'est déjà apparu dans notre rubrique économique, mais ça veut bien dire que le sujet avance. On va parler de la compagnie aérienne Rex, pour commencer, et le gouvernement fédéral qui a déclaré qu'il est prêt à acheter la ligne aérienne directement, et ça pour l'aider si ça devient nécessaire. Est-ce que c'est une bonne solution ça?
Bah peut-être. Ça, c'est mieux que de ne pas avoir de ligne aérienne comme Rex, qui vraiment est là principalement pour aller dans les régions, pour transporter les gens qui habitent autour de l'Australie dans les régions.
Rex, ça veut dire Regional Express, hein. C'est vraiment une ligne aérienne pour les régions.
Spécialisée. Et l'histoire des lignes aériennes en Australie, c'est une histoire qui n'est vraiment pas spectaculaire.
On pourrait écrire des romans dessus.
Alors, il y a une compagnie qui n'existe plus depuis très longtemps maintenant, qui s'appelle Ansett, qui existait avant, qui était en grande compétition avec Qantas, qui a fait faillite. Et en fait, c'est une histoire des compagnies qui font faillite une après l'autre. Et c'était la même chose avec Rex. Et donc là, ça fait un moment que on cherche quelqu'un pour acheter Rex, mais ça marche pas. Personne pour le moment veut l'acheter parce que évidemment c'est très difficile de faire l'argent comme ça. Rex avait essayé d'élargir et de commencer à ouvrir des vols et des pour aller dans les grandes villes comme Sydney, Melbourne, Brisbane, etc. Ça n'a pas marché. Ils ont fait faillite. Alors voilà, on se retrouve dans une situation où cette ligne aérienne principalement pour les régions est complètement en faillite et sans l'assistance du gouvernement fédéral, des dizaines de millions de dollars qu'ils ont déjà donnés vraiment à la ligne, ou ils ont investi dans cette ligne déjà, ça n'existerait plus.
Juste pour vraiment clarifier les choses aussi, je veux pas défendre Rex, mais c'est vrai que c'est une compagnie aérienne que j'ai beaucoup pris, donc je peux comprendre parce que d'un point de vue personnel, j'ai beaucoup pris Rex, et c'est vrai que quand ils ont voulu agrandir leur réseau et se diriger vers des grandes villes, faire des Melbourne-Sydney, clairement, hein, la ligne la plus occupée au monde. Il y a eu une compétition qui était faire, pas faire, on peut le débattre, mais les autres compagnies aériennes n'ont pas laissé ça faire.
Ça n'a pas rendu la tâche facile pour Rex du tout. Ça revient à ce problème en Australie où
le duopoly
qui est tellement puissant, et Virgin aussi maintenant, que personne d'autre peut entrer. Et quand quelqu'un, comme une compagnie comme Rex, essaye d'entrer dans le marché de Sydney-Melbourne, eh ben la résistance est incroyable. Et donc, ils n'ont pas pu faire ça. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où déjà, le gouvernement fédéral a investi tellement d'argent dans Rex qu'ils sont en fait le deuxième plus grand créditeur de Rex déjà. Et c'est grâce à ça vraiment que Rex a continué à pouvoir opérer et que les gens dans les régions puissent toujours prendre des vols de Rex. Sans cet investissement du gouvernement, ça n'existerait plus. Alors maintenant, le gouvernement dit vraiment si on peut pas trouver d'acheteur, on essaye encore, mais après ça, si on peut pas trouver d'acheteur, eh ben on va devoir l'acheter, nationaliser Rex, parce que c'est essentiel. On peut pas faire sans, en fait. Et donc c'est pas la meilleure solution, mais il y aurait pas d'autre solution.
Mais d'un autre côté, on peut argumenter que ça peut être assez malin de la part d'un gouvernement, parce que ça veut dire OK, ils achètent, ils nationalisent une compagnie aérienne, mais ça veut aussi dire que on doit peut-être dépenser un petit peu moins sur les infrastructures routières pour créer des liaisons dans les villes du bush. Donc c'est un investissement global pour relier les grandes villes du bush sans avoir à investir dans des routes, dans des trains, parce que les gens faut qu'ils bougent.
Oui, c'est vrai, mais ces lignes existent déjà. C'est pas comme si le gouvernement proposait d'en créer de nouvelles pour le moment. C'est juste pouvoir maintenir et continuer à opérer
service public
qui existe déjà. Ouais, voilà, parce que sans ça, ce que ça veut dire, c'est que sans ça, tous les gens qui habitent dans ces régions ne pourraient pas ou auraient énormément de difficultés de voyager en avion.
Et quand on parle de voyage, on parle aussi de voyages essentiels. C'est pas simplement des voyages en vacances. Il y a des gens qui vont dans les hôpitaux, il y a des gens qui... Donc c'est dans ce point de vue-là où je veux dire qu'au niveau des infrastructures, ça peut être en fait, et je défends pas le gouvernement plus que l'un que l'autre, mais ça peut être assez malin comme investissement en ce qui concerne l'infrastructure.
Oui, non, tout à fait, c'est pas bête, c'est pas mauvais, c'est sûr, et en même temps, l'argument, c'est que c'est dans l'intérêt national.
D'accord.
Et ça va être très intéressant de voir comment ça se passe, s'il y a un débat autour de ça, si vraiment ils essaient de l'acheter. Le gouvernement de Anthony Albanese, il l'achète. S'il y aura de la résistance de la part du Parti libéral et du Parti du National, ça serait assez étonnant si les Nationals opposent ça, parce que eux, bien sûr, ils représentent les gens dans les régions.
C'est leur nerf de la guerre.
Donc ça serait bizarre s'ils opposaient ça. Ils en ont besoin. C'est leur genre. Et en fait, les Nationals, si on regarde un peu leur histoire, ils n'ont pas toujours été opposés à la nationalisation. Les Nationals, ils ne sont pas comme les Liberals, nécessairement. Et donc, ça sera intéressant de voir. À mon avis, c'est quelque chose qui ne sera pas trop opposé.
Ouais, on va avoir en tout cas un beau débat public en tout cas sur cette question. Allez, on va parler maintenant de quelque chose qui concerne un peu tout le monde, quand même globalement, hein, qu'on aime aussi également beaucoup ici à SB, c'est le café. Alors on sait que le prix du café augmente, a augmenté énormément, et on n'est sûrement pas sur le plateau du prix d'un café, hein, ça risque d'augmenter encore énormément dans les mois, voire les années à venir. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre de machines vendues augmente également. Donc, est-ce que les Australiens se tournent un peu moins vers leurs baristas et deviennent eux-mêmes baristas? C'est un peu la tendance?
Apparemment, voilà. Donc, c'est pas toutes les compagnies de machines à café, principalement Breville. Et là, Breville, ça cible les machines à café à prix bon marché ou moyen, pas les super chères. On peut dépenser 5, 6, 7 000 dollars pour une machine à café, on veut. Là, on ne parle pas trop de ça. On parle plutôt des machines de 2,5 000, mais quand même, c'est pas rien. Mais c'est vrai, là, on voit que le prix de les graines de café, en particulier Arabica, est à un prix qu'on n'a pas vu depuis 50 ans. Donc là, ça veut dire que pour une tasse de café dans un café, ça coûte à peu près $5.50. Ça coûte beaucoup plus dans certains endroits et moins dans d'autres. Mais il y a des analystes dans le secteur qui disent que ça pourrait arriver à $10 ou $12 avant la fin de l'année.
Oui.
Ce qui est incroyable. Assez étonnant. Et donc, alors là, quand on fait le calcul, on achète une machine à café à $2,000 ou même un peu moins. Si ça vraiment c'est à $10 pour un café, ça va pas prendre trop longtemps pour repayer l'argent.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parliez de l'arabica, mais c'est vrai que c'est un goût qui a été développé beaucoup. Les Australiens aiment l'arabica. Le café australien, il est arabica, il est pas trop robusta. Et l'arabica, ça vient d'Amérique du Sud. Et c'est un prix qui est quand même mondial. L'Australie joue dans une cour mondiale pour le prix. Alors qu'en fait, on pourrait avoir des cafés beaucoup plus près de nous, Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple. Mais c'est une industrie qui n'est pas forcément en plein développement non plus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
En plein développement, il n'y a pas les quantités nécessaires. Il y a aussi, bien sûr, du café qui vient de l'Afrique, un peu partout dans le monde. Mais le style australien des cafés, c'est devenu quelque chose qui est devenu assez connu autour du partout dans le monde,
mais
dans d'autres pays. On va, par exemple, si on va à Paris, on trouve il y a des cafés et c'est genre café australien.
Tout à fait.
Tu peux maintenant demander un flat white, c'est dingue,
c'est
absolument étonnant. mais on peut faire ça. Mais bon, c'est pas juste Breville, De Longhi, une compagnie très connue européenne, bien sûr. Là, en fait, là, il y a des ventes qui ont augmenté donc par à peu près 10% en Espagne, en Autriche, en Suisse, même au Royaume-Uni, en République tchèque. Donc, c'est pas juste en Australie que ça se passe. C'est un peu dans d'autres pays où il y a des goûts différents aussi. Donc, c'est intéressant.
Et ben,
les gens qui font le café et deviennent des baristas à la maison.
Eux-mêmes, voilà, tout à fait. Ben, merci en tout cas de nous avoir éclairés sur ces deux sujets qui nous tiennent fortement à cœur ici à SBS. Merci Nicolas.
Merci Christophe.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ?
Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.